Chapitre 14. Chelsea, 1988. Le 8 septembre 1988 aurait dû être mon deuxième jour au collège. Mais vous avez probablement déjà deviné que cette année-là, je n'ai pas intégré l'établissement qui me faisait rêver. Celui où je devais rencontrer mes compagnons d'armes, mes meilleurs amis, ma tribu. Au cours de l'été, je demandais régulièrement à ma mère à quel moment nous allions aller acheter mon uniforme chez Harrods. Et elle me répondait qu'il valait mieux attendre la fin des vacances, au cas où j'aurais une poussée de croissance. Quand la fin du mois d'août est arrivée, nous ne l'avions toujours pas acheté. Nous n'étions pas non plus allés en Allemagne, alors que nous profitions habituellement de l'été pour aller passer une ou deux semaines dans la vaste maison de ma grand-mère, au cœur de la forêt noire, au bord de sa grande piscine, dans son jardin parsemé d'aiguilles de pin qui crissaient sous les pieds. Cet été-là, nous ne pouvions pas nous le permettre, semblait-il. Si nous n'avions pas les moyens d'aller en Allemagne, comment diable allions-nous payer les frais de scolarité? Début septembre, mes parents s'étaient mis à préparer des dossiers pour les écoles publiques des environs et à ajouter nos noms en bas des listes d'attente. Ils ne nous avaient jamais dit ouvertement que nous avions des problèmes d'argent, mais cela me paraissait évident. Pendant des jours et des jours, j'eus des maux de ventre à l'idée que j'allais devenir le souffre-douleur des brutes d'un collège de quartier difficile. Mais quelle préoccupation insignifiante! Quand je repense à ce garçon de 11 ans, à ce pré-adolescent un peu bizarre, pas très grand, chétif, avec les yeux bleus de sa mère, les cheveux roux de son père, des genoux qui ressemblaient à des patates plantées au bout de bâton, des lèvres fines qui lui donnaient un air désapprobateur, une attitude hautaine. Quand je repense à cet enfant gâté qui s'imaginait que les chapitres de sa vie avaient déjà été gravés dans le marbre et que tout lui était dû, quand je repense à ce garçon, j'ai envie de gifler sa petite face stupide, dédaigneuse et ingénue. Justin était accroupi dans le jardin. Il s'occupait des plantes qu'il cultivait. « L'apothicaire, m'avait-il instruit de sa voix monotone, c'est celui qui plante, cultive et utilise les herbes médicinales. Les grands laboratoires pharmaceutiques sont en train de détruire la planète. Dans 20 ans, tous les citoyens de ce pays seront accros à leurs médicaments, et la sécu sera à genoux à force de payer les bonbons d'un pays malade. Je veux changer la donne, en utilisant ce que la Terre nous offre pour guérir nos maux du quotidien. Inutile de combiner 8 principes actifs pour soulager une migraine. Ta mère va arrêter les médicaments et commencer à se soigner avec mes infusions. » Je le regardais bouche bée. Notre famille survivait grâce au cachet. Des comprimés contre la fièvre, les rhumes, les maux de ventre, les inflammations et les gueules de bois. Ma mère avait même des gélules pour ce qu'elle appelait ses idées noires. Mon père avait des médicaments pour son cœur et pour lutter contre la calvitie. Il y en avait plein les placards. Et à présent, nous allions cultiver des plantes et préparer nos propres remèdes. C'était tout bonnement incroyable. Mon père avait eu un accident vasculaire cérébral léger pendant l'été. Depuis, il boitait un peu et avait du mal à articuler. Il n'était plus vraiment le même, et en le voyant ainsi diminué, je me sentais menacé, comme si une faille irréversible s'était ouverte dans l'armure familiale. Le docteur Broughton, un homme sec et revêche d'un âge indéfinissable, qui avait un cabinet dans sa maison de 5 étages située à l'angle de notre rue, était venu au chevet de mon père après son retour de l'hôpital. Ensemble, ils avaient fumé des cigares dans le jardin, tout en discutant du diagnostic.
« Mon cher Henry, selon moi, ce qu'il te faut, c'est un excellent kinésithérapeute pour ta rééducation. Hélas, tous ceux que je connais sont extrêmement mauvais. »
Ils avaient explosé de rire.
« Je ne suis pas sûr, » avait fini par annoncer mon père. « Pour être honnête, je ne suis plus sûr de rien. Alors je suis prêt à tout essayer si cela m'aide à redevenir moi-même. »
À ce moment-là, Birdie était également dans le jardin avec Justin. Il faisait très chaud, et elle portait un t-shirt en mousseline à travers duquel on pouvait voir ses seins. Elle avait retiré son chapeau de paille et s'était plantée devant mon père et le médecin, les mains sur les hanches.
« Je connais quelqu'un, un type extra, il fait des miracles. Il utilise l'énergie chi pour réparer le corps. Il a sauvé certaines de mes connaissances qui avaient des problèmes de dos et de migraines. Je vais lui demander de passer.
Mon père avait tenté de protester.
« Allons, Henry, c'est la moindre des choses. Je lui téléphone tout de suite. Il s'appelle David Thompson. »
Ce matin-là, j'étais dans la cuisine avec ma mère. Je la regardais préparer des scones au fromage quand la sonnette retentit. Ma mère essuya ses mains sur son tablier, remit en place nerveusement les pointes de son carré court permanenté.
« Ça doit être les Thompson. »«
Les qui ?»
demandai-je, ayant oublié la scène de la semaine précédente.
« Des amis de Birdie et Justin, »
m'apprit-elle rayonnante.
« Le père est kinésithérapeute. Il va aider papa à retrouver la forme. La mère est enseignante. Elle va vous faire l'école à la maison pour quelque temps à ta sœur et toi. C'est parfait, non ?»
Je n'eus pas le temps de demander à ma mère des précisions sur cette nouvelle, aussi sidérante qu'inattendue, qu'elle avait déjà ouvert la porte. Bouche bée, je les vis entrer chez nous. D'abord, une fille de 9 ou 10 ans. Une coupe au bol, une salopette coupée en short, des genoux égratignés, une trace de chocolat sur la joue, l'air surexcité. Son nom, m'apprit-on, était Clemency. Puis un garçon de mon âge, peut-être un peu plus vieux, blond, grand, avec de longs cils noirs qui balayaient le haut de ses pommettes saillantes, les mains dans les poches d'un beau short bleu, une frange qui semblait éviter naturellement de lui tomber devant les yeux, mais qui devait être très travaillée. Il s'appelait Phineas. Tout le monde l'appelait Fine. La mère suivit. Une femme costaude, la peau pâle, la poitrine plate, de longs cheveux blonds et l'air plutôt peureux. Sally Thompson. Derrière eux, grand, les épaules larges, élancées, bronzées, les cheveux courts et bruns, les yeux intensément bleus et les lèvres pulpeuses, se tenait le père, David Thompson. Il captura ma main entre les siennes.
« C'est un plaisir de te rencontrer, jeune homme. » Il avait une voix basse et douce. Il libéra ma main et ouvrit grand les bras en souriant à chacun d'entre nous tour à tour. « C'est un plaisir de tous vous rencontrer. »
Ce soir-là, David insista pour nous emmener au restaurant. C'était un jeudi, et il faisait encore plutôt chaud. Avant de sortir, je pris grand soin de mon apparence, et pas seulement comme je le faisais d'habitude, c'est-à-dire en vérifiant que mes vêtements étaient propres, que ma raie était bien au milieu de mon crâne, et que mes boutons de manchette étaient droits. Non, cette fois-ci, je me donnais vraiment du mal. Ce Phineas me fascinait. D'abord, il était extrêmement beau, mais en plus, il s'habillait très bien. Outre son short bleu, il portait un polo rouge avec des rayures blanches verticales, des baskets Adidas immaculées et des chaussettes qui remontaient jusqu'aux chevilles. Je fouillais toute ma garde-robe pour trouver quelque chose qui aurait pu donner la même impression de décontraction. Toutes mes chaussettes remontaient jusqu'aux mollets. Seule ma sœur en avait des courtes. Mes shorts étaient en laine et toutes mes chemises avaient des boutons. J'avais pensé un moment enfiler ma vieille tenue de sport, mais je dus renoncer à l'idée en me rendant compte que les vêtements en question traînaient en boule dans mon sac depuis plusieurs mois. Je finis par opter pour un t-shirt bleu, un jean et des tennis en toile. Je voulus faire en sorte qu'une mèche de mes cheveux se pose sur mon sourcil comme Phineas, mais elle refusait de se soumettre à ma volonté. Je me fis face sans ciller pendant 20 bonnes secondes dans le miroir, pestant contre la laideur de mon visage, la banalité de mon t-shirt, la coupe désavantageuse de mon jean John Lewis. Je poussai un cri étranglé, donnai un coup de pied dans le mur, sortis de ma chambre et descendis l'escalier. Phineas était déjà là dans le hall, assis sur l'une des immenses chaises en bois qui encadraient l'escalier. Il lisait. Je l'observais un moment à travers les barreaux de la balustrade avant de faire mon entrée. Je n'avais jamais vu quelqu'un d'aussi beau. Je sentis mes joues rougir en détaillant les traits de son visage, sa bouche qui semblait sculptée dans l'argile la plus douce et la plus rouge, ses lèvres si délicates qu'un doigt en s'y posant y aurait laissé une empreinte indélébile. Sa peau ressemblait à de la chamoisine tirée sur des pommettes qui risquaient de la transpercer à tout moment. Il avait même un irrésistible soupçon de moustache. Il remit en place sa mèche d'un mouvement de tête et me lança un regard désintéressé en m'entendant descendre l'escalier avant de reporter immédiatement son attention sur son livre. J'aurais voulu lui demander ce qu'il lisait, mais je n'osais pas. Je me sentais mal à l'aise, je ne savais plus où me mettre. Les autres arrivèrent rapidement. D'abord mon père et ma mère, suivis de ma sœur avec la fille nommée Clemency. Elles étaient déjà en pleine discussion, puis Sally, Justin et Birdie, et enfin, en haut de la cage d'escalier, David Thompson apparut comme auréolé d'une lumière céleste. Que pensait le garçon que j'étais alors de David Thompson? D'abord qu'il était très séduisant. Pas à la manière un peu féminine de son fils, mais d'une façon plus classique. L'ombre de sa barbe, si nette qu'on l'aurait cru peinte, obscurcissait le bas de son visage. Il avait des sourcils épais, bien dessinés, et il émanait de lui une énergie animale, un charisme évident. Quiconque à ses côtés paraissait plus petit que lui, même si ce n'était pas le cas. Il me fascinait et me rebutait tout autant. Je peux également vous dire que ma mère se comportait étrangement en sa présence. Elle n'était pas du tout avenante. Au contraire, elle s'effaçait, comme si elle ne faisait pas confiance à cet homme. Il était à la fois imbu de lui-même et terre à terre, chaleureux et froid. Je le détestais, mais je comprenais que les autres l'aiment. C'est ce que j'allais commencer à ressentir après ce premier dîner, après cette première soirée où tout le monde essaya de se montrer sous son meilleur jour. Nous nous étions agglutinés autour d'une table prévue pour 8 personnes dans un restaurant de Chelsea. Les enfants avaient été placés en bout de table. J'étais donc coude à coude avec Phineas. Je me sentais totalement électrisé par cette proximité. Mes nerfs étaient à vif, et mon corps, qui aspirait à quelque chose que j'étais trop jeune pour définir, était si tendu que je n'avais pas d'autre choix que de lui tourner le dos. Mon père était assis à l'autre bout de table. En le voyant, je sentis quelque chose en moi s'effondrer, comme un ascenseur dont on aurait coupé les câbles. Je ne compris pas tout de suite cette sensation, mais aujourd'hui, je peux vous dire que cela s'apparentait à une sorte de prémonition cauchemardesque. Je voyais mon père physiquement diminué par la présence de l'immense David Thompson, et je remarquais que sa place, en bout de table, qui n'aurait jamais pu être remise en cause auparavant, n'avait plus rien d'une évidence. Même sans les séquelles laissées par son AVC, tout le monde autour de la table était plus intelligent que lui, y compris moi. Il était mal habillé, sa veste était trop serrée, et la touche de rose qu'apportait le mouchoir coincé dans sa poche de poitrine jurait avec ses cheveux roux. Il se contorsionnait sur sa chaise, et la conversation lui passait au-dessus de la tête, comme des nuages un jour de grand vent. Il étudia le menu bien plus longtemps que nécessaire, pendant que David Thompson se penchait vers ma mère pour lui poser une question et se balançait en arrière pour écouter sa réponse. Je vis tout cela et compris de façon subliminale et insupportable qu'un bras de fer se jouait sous mon nez et qu'à cet instant, mon père l'avait déjà perdu.